France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliveira Guyon.
Nous faisons une matinale spéciale sur le Disquaire, cette première journée annuelle de promotion organisée par les disquaires indépendants. Ce sera demain, le 12 juin, partout en France, chez différents disquaires. Nous serons avec Frédéric Dorian-Nicolas, le fondateur du label The Lost Recordings, ainsi que Nicolas Bichet, l'un des discothécaires de Radio France. Et tout à l'heure, en ligne également, Alexandre Lache, le directeur du syndicat national de l'édition phonographique. Bonjour Nicolas Bichet.
Bonjour.
Vous êtes donc l'un des discothécaires de Radio France. Alors ce Disquaire Day, est-ce que Radio France participe ?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui va se passer pour Radio France ? Alors, vous allez prêter des disques ?
C'est surtout, il y a une collaboration avec FIP, à l'initiative de FIP et de l'ADEMI et du Disquaire Day, où en fait, ce sont les micro-sillons sessions uniques.
C'est des sessions que vous avez, vous, enregistrées ici, des enregistrements, des concerts.
C'est enregistré par FIP. Mais la discothèque, en fait, a pris l'initiative de faire acheter une machine à graver des vinyles. Et en fait, les concerts sont enregistrés directement sur les vinyles, qui sont des éditions limitées. Il y en a à peu près 300, je crois.
D'accord. Voilà. Et c'est donc un événement partout en France. Nous allons tout de suite parler avec Alexandre Lache, qui est avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et tous.
Merci d'être avec nous. Le syndicat national de l'édition phonographique défend les intérêts de l'industrie française du disque depuis presque 100 ans. Il a été fondé en 1922. Ça représente combien de maisons de disques et de labels en tout ?
Aujourd'hui, le syndicat regroupe environ 70 labels. Alors des producteurs de musique, on représente aussi bien des grandes maisons de disques que des petits labels indépendants, dans tous les genres musicaux et notamment dans le classique et le jazz, cher à vos auditeurs.
Des labels indépendants qui sont donc en valeur dans cette journée demain, le Disquaire Day. C'est important de les soutenir, ces disquaires. Il y en a combien en France ?
Il y en a entre 200 et 300, principalement dans les centres-villes, et c'est un réseau de distribution formidable, aussi bien pour le travail qu'ils font sur le patrimoine que sur la nouveauté, évidemment, et on a besoin d'eux.
Est-ce que, je vous pose la question d'abord, Alexandre Lache, l'incroyable regain de l'intérêt pour le disque vinyle, il se confirme vraiment ?
Absolument. Pour vous donner quelques chiffres, dans une année comme 2020, marquée par des circonstances qu'on connaît tous, extrêmement compliquées, 3 mois de fermeture des commerces culturels, le vinyle a malgré tout su tirer son épingle du jeu. Une progression en volume de 500 000 unités, donc 4 500 000 unités vendues en 2020, c'est 4 fois plus qu'en 2015.
Quelle est la part des ventes des vinyles dans le monde, dans les supports de disques en général ?
Alors dans le monde, ça représente un peu plus de 20%. Le vinyle, c'est un peu plus de 20% des produits physiques musicaux qui sont consommés. En France, c'est 28% des ventes physiques désormais, avec une hausse du chiffre d'affaires l'an dernier de 10%. Là encore, un exploit dans les circonstances qu'on connaît.
Oui, bien sûr. Votre syndicat national de l'édition phonographique, il est porte-parole des producteurs de musique enregistrés en France, aussi sur des questions économiques, juridiques, fiscales et sociales également.
Absolument, absolument. Et justement, on a ce rôle de mise en valeur de ce support. Et voilà, pour vous donner un nouveau chiffre encore, 51 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, c'est ce que représente le vinyle. C'est plus que le chiffre d'affaires généré par YouTube et l'écoute de musique sur les plateformes de vidéo.
Alors vous restez avec nous, Alexandre Lache. Nous allons écouter un premier extrait, le premier 33 tours du monde que le Radio France, la discothèque de Radio France a. Ici, Nathan Milstein au violon, l'Orchestre Philharmonique Symphonique de New York et Bruno Walter à la direction. Un disque qui date de 1948 et nous allons les écouter dans l'Allegro du concerto numéro 2 de Félix Mendelssohn.
Thank you.
Un extrait du mouvement Allegro Molto Vivace du deuxième concerto pour violon de Félix Mendelssohn par Nathan Milstein au violon, l'Orchestre Philharmonique Symphonique de New York, Bruno Walter à la direction. Un disque, vous l'avez entendu, au crépitement de 1948, le premier 33 tours au monde qui a été pressé par Columbia. Nicolas Bichet, vous êtes discothécaire à Radio France. Ce disque fait donc partie de toutes ces pépites que vous avez à la discothèque. Combien y a-t-il de disques CD et vinyle confondus ici, à la discothèque
alors,
de Radio France?
Alors, CD et vinyle micro-sillon, il y en a à peu près 1 million. Et donc, il y en a, nous avons 450 000 33 tours à peu près et 75 000 45 tours. Et en plus, 150 000 78 tours.
D'accord. Voilà. Et par exemple, ce disque-là qui est très précieux, donc de 1948, ouais. Est-ce qu'il est conservé de façon particulière ou pas spécialement?
Pas spécialement, enfin, il est conservé avec les autres.
Ouais, d'accord. Vous en achetez tous les jours des vinyles?
Oui, on en achète entre 800 et 900 par an.
D'accord. Et vous les numérisez aussi pour qu'ils puissent passer sur les antennes de Radio France?
Tout à fait.
Alors Alexandre Lache, vous êtes toujours avec nous, directeur national de l'édition phonographique, à l'occasion de ce Disque RD qui aura lieu donc demain le 12 juin dans toute la France. J'ai une question. Entre la musique enregistrée à l'ère numérique, il faut s'adapter à tout ça, le vinyle, mais aussi l'ère du numérique. Comment on voit cette différence-là? Comment on la comprend?
Entre alors déjà, vraiment le numérique il faut pas les vinyle. Opposer. Il faut pas les opposer puisque vous avez un tiers des abonnés à des plateformes de streaming qui sont des acheteurs réguliers de vinyle. Donc le vinyle, il touche toutes les générations, aussi bien les jeunes qui contribuent à 40% de son chiffre d'affaires. Hein, moins de 35 ans, c'est 40% du chiffre d'affaires vinyle. Et pour autant, ce sont évidemment aussi des consommateurs de musique numérique. Donc voilà, il faut pas les opposer. Ce sont deux mondes qui cohabitent très bien ensemble. Et justement, quand on écoute beaucoup de sons numériques, on a aussi besoin de ce retour à l'analogique parfois, et ça fait du bien d'entendre ces crépitements dont vous parliez.
Exactement. Est-ce que les revenus liés au numérique sont-ils devenus supérieurs à ceux de la vente physique?
Oui, ils le sont devenus il y a 2 ans déjà. L'année dernière, les revenus du numérique, d'une manière générale, c'est les 2/3 du chiffre d'affaires des producteurs et des artistes, essentiellement portés par le streaming par abonnement.
Alors, le Disque RD, donc, qui va avoir lieu demain et puis également le 17 juillet, est-ce qu'il a participé au regain du vinyle, justement, de ces dernières années?
Absolument, clairement. Ça fait une dizaine d'années qu'on voit le retour en force du vinyle et ça coïncide précisément avec la première édition du Disque RD en France.
Vous mettez en valeur ces disquaires, est-ce qu'ils s'en sortent, eux? Parce que donc, justement, avec l'idée du streaming, de la grande distribution, est-ce que ce métier de disquaire ne tend pas à disparaître?
Non, je ne le crois pas et je ne l'espère pas. Oui. Alors c'est vrai que depuis 3 ans, le commerce en général et les disquaires notamment ont été particulièrement secoués par les différentes crises et évidemment par la crise sanitaire. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement prend aussi la mesure de cette crise et a récemment reconnu ces magasins comme des magasins essentiels. Et ça, c'était un combat aussi pour nous, producteurs de musique, de faire reconnaître le caractère essentiel des magasins culturels.
Oui, ça c'était important. À Radio France, l'activité, elle ne s'est pas arrêtée pendant les différents confinements. Nicolas Bichet, vous êtes donc discothécaire ici à Radio France et vous m'avez suggéré d'écouter parmi les raretés un disque de René Jacobs qui date, lui, de 1975, un micro-sillon de 33 tours. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce disque ?
Alors, ce disque, donc, c'est son troisième album. Il chante dedans en tant que contre-ténor.
Il est accompagné par Johan Huys au clavecin.
Exactement. Et en fait, il a fait lui-même la traduction en vers, en néerlandais, de la jaquette, du texte.
Et vous me disiez que René Jacobs n'avait pas ce disque.
Oui,
c'est un des rares exemplaires qu'il reste.
Tout à fait.
Nous allons en écouter un extrait, Pastor Levatesu de Marco da Galliano. L'un des micro-sillons ici à Radio France, 33 tours de 1975, la voix du contre-ténor René Jacobs avec le claveciniste Johan Huys dans cet air Pastor Levatesu de Marco da Galliano à 8h45 sur France Musique. Nous sommes toujours en ligne avec Alexandre Lasch, du directeur du syndicat national de l'édition phonographique, à l'occasion du Disquaire Day qui aura lieu demain dans toute la France. Pour inciter le public à se rendre dans les boutiques indépendantes, les disquaires indépendants. Alexandre Lasch, une petite question. Je sais que vous réalisez avec le SNEP la réalisation des classements des meilleures ventes. Et écoute, en streaming, qu'en est-il pour 2020 ?
Alors c'est vrai qu'on réalise notamment le top 50 vinyle. Et ce qu'il y a d'intéressant quand on regarde ce top 50, c'est que évidemment, il continue à faire la part belle aux grands standards. Vous y retrouvez Nirvana, Queen, Bob Marley, Amy Winehouse, mais il s'ouvre désormais aussi largement aux nouvelles productions et aux jeunes talents. On y retrouve les nouveaux albums des AC/DC, de Julien Doré, de Dua Lipa.
Et donc puis, sur vinyle allez... en fait.
Exactement, en vinyle. Et vous trouvez également des premiers albums, ceux d'Angèle, de Clara Luciani notamment, pour citer des artistes français.
Oui, il y a un côté un peu vintage comme ça qui revient à la mode en fait.
Absolument.
Sur le vinyle.
C'est plus une mode, c'est une lame de fond. Hein. Il y a vraiment une passion des Français pour l'écoute de vinyle.
Combien ça coûte un vinyle en général ?
Ah, et vous trouvez ça à tous les prix. Hein. Vous avez des prix très accessibles et puis des éditions collector. Donc voilà, il y a une gamme de prix adaptée à toutes les bourses.
Et puisqu'on est sur France Musique, quelle est la part du classique dans le vinyle aujourd'hui qui s'achète ?
Alors, j'ai pas le chiffre, je veux pas vous dire de bêtises, mais je la souhaite la plus grande possible et promis, je regarderai pour la prochaine fois.
Et est-ce que dans le top 50, il y a du classique ?
Non, on n'en trouve pas, pour être honnête. Mais malgré tout, vous avez quand même de magnifiques éditions d'albums classiques en vinyle. Et j'encourage tous vos auditeurs à se précipiter chez leur disquaire pour les découvrir.
Absolument, c'est l'occasion demain, à l'occasion du Disquaire Day. Nous allons accueillir maintenant Frédéric Doria-Nicolas, fondateur justement d'un label, l'un des fondateurs du label The Lost Recordings. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Frédéric Doria-Nicolas. Alors, votre label s'occupe, exhume des trésors.
Tout à fait, tout à fait.
Comment choisissez-vous parmi tout ce qui existe, tout ce qui existe ?
Écoutez, déjà, on les traque à travers les archives du monde entier. C'est un travail de fourmi parce que il faut croiser absolument toutes les données, les artistes, les différents musiciens.
Les droits d'auteur, j'imagine aussi.
Alors ça, c'est un problème qui survient après. Il y a plusieurs types de droits, mais il y a les droits de producteur. Donc ça, c'est relativement simple parce qu'on se rend dans les archives et c'est eux qui sont détenteurs des bandes master. Les droits d'auteur, les droits d'auteur, c'est géré par la SACEM. Et enfin, les droits d'interprète, ça c'est beaucoup plus compliqué. Il faut retrouver tous les ayants droit de tous les musiciens et leur demander les autorisations. Voilà, c'est vraiment un travail de fourmi.
Un label d'exception donc, qui restaure aussi, bien sûr, ses bandes originales, des concerts, des enregistrements uniques au monde et des vinyles tirés à 2000 exemplaires numérotés à la main. Comment, d'où vient la technologie pour restaurer ces bandes ?
Alors c'est un procédé qu'on a mis au point pendant plusieurs années avec plusieurs ingénieurs qui venaient d'ailleurs à l'époque de chez De Vialet qui est une entreprise française. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la restauration de bandes analogiques c'est empirique. C'est-à-dire que sur chaque étape, l'étape de la préparation, l'étape de la lecture des bandes, vous allez avoir un gain à chaque fois que vous utilisez des appareils particuliers. Par exemple, on a comparé quasiment tous les magnétophones possibles et imaginables pour savoir celui qui était le plus transparent. Mmh. Et c'est vrai que les magnétophones disparaissent, donc c'est aussi très compliqué d'en retrouver les têtes de lecture s'usent. Donc de trouver un magnétophone particulier avec des têtes qui sont en très bon état, c'est compliqué. Et surtout, il faut être en mesure d'aligner les têtes avec les bandes. Enfin, quand c'est des enregistrements studio, généralement ou assez récents, vous avez ce qu'on appelle des fréquences d'étalonnage. Mais sur les lives qu'on retrouve, en fait, généralement, il n'y a pas ces fréquences-là. Mmh. Donc, il faut y aller vraiment à tâtons. Il faut y aller à tâtons. Voilà.
Vous êtes des archéologues du son et puis vous retrouvez donc ce patrimoine musical oublié. Par exemple, vous parlez du live justement, un concert en 1969 à Berlin par Sarah Vaughan. Pourquoi Sarah Vaughan en premier dans les sorties de disques de vinyle de votre label The Lost Recordings ? Pourquoi elle ?
Écoutez, c'était en fait c'est un concert que je connaissais puisque c'est un concert qui a été filmé par la télé allemande et quand on était dans les archives de la radio berlinoise, la RBB, le son de ce concert que je connaissais me paraissait perfectible. Et donc, on avait demandé les bandmasters. Or, le concert en vidéo durait une quarantaine de minutes. Et on nous a sorti 4 bandes. Et quand on a joué la première, en fait, il s'agissait pas du tout des titres que je connaissais. Et on a compris par la suite qu'elle avait fait 2 sets. Donc, c'est un concert à la Philharmonie de Berlin dans le cadre des Jazz Tagger. Et c'est seulement le 2e set qui avait été filmé.
Donc, il y avait des vraies surprises.
Ah ben, il y avait 45 minutes de musique totalement inédite. Et avec des titres, des reprises des Beatles, une version complètement hallucinante de Fly Me to the Moon. Voilà. Et quand on retrouve un trésor comme celui-là, c'est assez particulier parce que déjà, bon, les boîtes n'ont pas été ouvertes depuis 60 ans, donc c'est vraiment une émotion
d'ouvrir
ces boîtes-là. Et puis, il y a quelque chose, bon, on écoute beaucoup de choses quand on se déplace, et quand on entend vraiment un trésor, c'est immédiat. Enfin, vous avez cette sensation absolument immédiate. Vous comprenez que s'il s'agit d'une légende, d'une performance, d'un programme, et la qualité du son était fabuleuse. Donc voilà, on a sorti ce live à la Philharmonie de Berlin de Sarah Vaughan. C'est une première mondiale comme tous les enregistrements qu'on a sortis jusque-là. Je vous entendais parler du vinyle. C'est vrai que moi je suis un grand fan de vinyle depuis des années, et c'est un terme lorsqu'on parle de je vous entendais parler de prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vinyle c'est un terme générique. C'est un peu comme l'automobile, si vous voulez, ça va vraiment de la citadine jusqu'à la voiture hypersport. Et le vinyle, c'est un petit peu pareil. C'est tellement compliqué à fabriquer que ce qui justifie le prix, et ça les gens ne le comprennent pas forcément au départ, c'est vraiment la qualité de fabrication et la qualité de réalisation. Pour vous donner un exemple, il y a plusieurs manières de faire une gravure. Je vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais la gravure, elle est réalisée sur lac, en ce qui nous concerne. Elle est faite par Kevin Gray à Los Angeles. Ensuite, la galvanisation, elle est confiée à une usine qui est probablement la meilleure au monde pour cela, qui est dans le Kansas. Ensuite, on valide tous les test pressings en les écoutant un par un. S'il y a la moindre scorie, la moindre erreur, on recommence depuis le début. Enfin bref, il y a plein d'étapes, et c'est ce qui justifie le prix, et surtout c'est ce qui justifie l'expérience sonore, parce que
des objets uniques.
Oui. Et ensuite il y a évidemment les objets, les pochettes, parce que c'est un objet fabuleux avec une pochette beaucoup plus grande que celle
bien sûr,
des CD.
Voilà. Il y a plus de contenu aussi.
Et il y a un rituel aussi à l'écouter, il y a un plaisir particulier, mais on peut atteindre en termes de restitution sonore, vous pouvez atteindre des sommets quand vous lisez un vinyle.
On va l'écouter justement avec Sarah Vaughan, de Sweetest Song, justement un extrait de ce concert en 1969 à Berlin. Merci beaucoup Frédéric Doria-Nicolas. Je rappelle que
Merci
vous êtes l'un
vous.
Des fondateurs du label The Lost Recordings. En un mot, Nicolas Bichet, l'émotion, vous l'avez aussi à chaque fois que vous avez un vieux vinyle.
Bien sûr,
comme
oui,
ça, dans les mains à Radio France.
Un micro-sillon, un 78 tours, ou même oui, tout ça, oui.
Merci beaucoup Nicolas Bichet d'avoir été avec nous, discothécaire à Radio France. Et merci également Alexandre Lache, directeur du syndicat national de l'édition photographique, d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion du Disquaire Day qui commence demain, samedi 12 juin, dans toute la France. Voici donc Sarah Vaughan sur France Musique, 8h55.
À réécouter sur francemusique.fr.